Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin?
Je crois qu'à ce niveau de responsabilité, tous les gens sont un peu emprisonnés par leur personnage, quel qu'il soit. Et puis l'amitié qui a toujours tenu une grande place dans ma vie. Mes amis me trouvent moins disponible et ça, moi aussi je les vois moins et j'en souffre.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, troisième épisode de notre semaine entièrement consacrée à Simone Veil, Simone Veil, l'immortelle. En première partie, Sandrine Bonner lit des fragments de son autobiographie intitulée « Une vie ». Avant-hier, c'était l'enfance niçoise. Hier, c'était l'enfer dans les camps. Ce soir, nous allons consacrer notre émission plus précisément sur la personnalité plus publique, plus politique de Simone Veil. Nous allons évoquer ses combats et ses engagements en deuxième partie grâce à Annick Cogent qui a écrit plusieurs textes sur elle. Mais en première partie, nous avons rendez-vous avec Sandrine Bonner. Mais comme chaque soir, dans l'heure bleue, nous allons commencer en musique et nous allons commencer par Nina Simone, Just Like a Woman.
She takes just like a woman, yes she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks like a little girl. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows the baby's got new clothes lately. I see her ribbons and her bows, and the problems from her curls. She takes just like a woman, yes she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, and she breaks like a little girl. It was raining from the first, everybody knows I was dying of thirst, so I came here. A long time's curse, and what's worse is this pain. Yeah, I can't stay in here. I was hungry,
just like a woman. And I just like a woman. But I break just like a little girl.
Le gouvernement, la loi Veil. Extrait du chapitre au gouvernement. Un soir, alors que nous dînions chez des amis, la maîtresse de maison m'invita à sortir de table. Quelqu'un désirait de toute urgence me parler. C'était Jacques Chirac, qui me demandait si j'accepterais, le cas échéant, de faire partie de son gouvernement. Il me pria de réfléchir et de le rappeler le lendemain. Le calme dont j'ai su faire preuve jusqu'à la fin de la soirée n'a pas manqué de surprendre mon mari. Pour dire le vrai, je n'avais qu'une très vague idée de ce qui m'attendait. La curiosité aidant, je n'ai guère hésité.
Et maintenant, la composition du nouveau gouvernement, que j'ai nommé sur la proposition du Premier ministre et après que nous nous soyons entretenus à plusieurs reprises de sa composition. Qui y a-t-il dans ce gouvernement? À côté de cette liste, il y a deux nouveautés que je voulais vous signaler, deux autres ministres. D'abord, une femme, Madame Simone Veil, qui est ministre de la Santé.
C'est ainsi que je me suis retrouvée dès le lendemain, ministre de la Santé. Convaincue qu'une néophyte comme moi n'allait pas tarder à commettre une sottise telle qu'on la renverrait dans ses foyers. En outre, pourquoi le président m'avait-il confié la santé, secteur administratif dont je n'étais pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, une spécialiste. Pensait-il déjà à l'IVG, thème sur lequel il avait pris des engagements? Sans doute. Quoi qu'il en soit, j'étais la seule femme ministre, mes consoeurs n'occupant que des secrétariats d'État, Annie Le Sueur à l'éducation, Hélène Dorlac à la justice, François Giroud à la condition féminine. De mes premiers pas au gouvernement, j'ai gardé le souvenir d'un emploi du temps écrasant, du fait du poids des dossiers et des servitudes gouvernementales. Il est vrai que dans ces deux domaines, la personnalité du nouveau président s'imposait. Il était aussi impressionnant par sa rapidité d'esprit et sa capacité de travail que par sa prestance personnelle et la haute idée qu'il se faisait de sa fonction. Aussi, les nouveaux ministres, moi-même et les autres, marchions-nous sur des œufs. Lors des conseils, si l'un d'entre nous se mettait à bredouiller ou s'en mêlait dans ses notes, il n'était pas rare de voir le président froncer les sourcils. Jacques Chirac venait alors à la rescousse du néophyte avec aménité. Monsieur le Président, je tiens à dire que Monsieur Untel ou Madame Untel a très bien travaillé sur ce dossier et a fait tout ce qu'il fallait faire. Le président acquiesçait alors en silence et le conseil reprenait son cours. Le Premier ministre avait nettement le souci d'arrondir les angles. Autour de la table se retrouvaient en effet de féroces ennemis politiques, tels les anciens gaullistes et les membres de la garde giscardienne. Les premiers accusant les seconds d'avoir entraîné 5 ans plus tôt, par leur ralliement au nom, le départ du général. Les différents leaders centristes n'étaient pas en reste. Le gros de la troupe, en particulier les nouveaux comme moi, se tenait dans une prudente réserve, facilitée du reste par les usages, puisque les ministres ne prennent pas la parole que s'ils y sont conviés par le président. En tout état de cause, énoncer ses convictions sans platitude ni maladresse ne relève pas de la facilité. J'ai souvenir d'un moment particulièrement intense, 2 ans plus tard, lorsque le président a demandé à chacun son point de vue et son accord sur le projet de système monétaire européen pour éviter toute défection ultérieure. Parmi les personnalités qui composaient le gouvernement, la seule que je connaissais auparavant était François Giroud, croisée chez Marcel Blustein-Blanchet. Comme elle se retrouvait en charge du nouveau département de la condition féminine, il me semblait normal de travailler avec elle. Dès les premiers jours de nos prises de fonction, je l'ai donc appelée pour lui proposer des opérations communes. Elle pourrait recueillir les demandes des femmes, nous en parlerions ensemble, et mon ministère lui apporterait son soutien financier, puisque le budget du sien était famélique. Françoise m'a écouté poliment, mais quelques jours après, j'ai eu la surprise de découvrir un écho assez ironique et désagréable dans l'Express. J'en ai conclu qu'il ne servait à rien de soumettre une quelconque idée à une femme qui faisait profession d'en produire à longueur d'articles. La cause des femmes l'intéressait-elle vraiment d'ailleurs? Je n'en suis pas convaincue. Elle avait, avec une plume remarquable, une personnalité brillante, savait parfaitement jouer des formules assassines. On se rappelle sa phrase terrible à propos de la campagne présidentielle de Chaban. On ne tire pas sur une ambulance. Mais son militantisme et ses engagements réels au profit de la cause des femmes étaient sans doute moins forts que son sens médiatique. hors pair, de le laisser croire. Ma tâche me paraissait d'autant plus lourde que la profession médicale, dans l'ensemble, m'accepte avec réticence. Il ne sert à rien de travestir les faits. Face à un milieu au conservatisme très marqué, je présentais le triple défaut d'être une femme, d'être favorable à la législation de l'avortement, et enfin d'être juive. Je me rappelle ma première rencontre avec le groupe de médecins conseillers que Robert Boulin avait constitué quelques années plus tôt. L'accueil qu'ils me réservèrent fut glacial. Je crois bien que, s'ils avaient pu m'assassiner, ils l'auraient fait. Je suis restée 5 minutes avec eux, convaincue que je perdais mon temps. Par la suite, je n'ai plus convoqué ce groupe que de loin en loin, avant de le dissoudre, ce qui naguère parut émouvoir ses membres. Même si dans mes premières attributions ne figurait pas la sécurité sociale, c'était le ministre du Travail, Michel Durafour, qui en avait alors la charge. Je me suis rapidement rendu compte que la situation financière du régime était catastrophique. Je devais en hériter 2 ans plus tard, lorsque Raymond Barre succéda à Jacques Chirac, à la tête du gouvernement. Entre-temps, la crise économique avait encore tendu la situation, et malgré la rigueur de gestion dont le nouveau Premier ministre faisait preuve, nous avons eu toutes les peines du monde à maintenir les déficits dans des limites acceptables. Et comme à cette époque, les dépenses de santé ne faisaient l'objet d'aucun débat parlementaire, il ne fallait pas être doué d'une grande clairvoyance pour comprendre que les dépenses allaient exploser. Je me souviens de réunions au cours desquelles je tentais d'ouvrir les yeux des médecins par des propos qui me semblaient relever du bon sens. La médecine a un coût, mais elle a surtout un prix. Il faudra en être conscient, leur répétais-je, lisant dans leur regard l'incompréhension la plus totale. Très rapidement, je me suis trouvée sans le vouloir en position de vedette. D'abord parce que mon premier texte, voté, élargissait le champ de la contraception, jusqu'à la très encadrée, malgré tous les efforts de Lucien Neuwirth. Ensuite, et surtout parce que dès l'été, nous nous sommes attelés au texte de la loi sur l'IVG.
Depuis plusieurs années, les femmes réclament le droit de pouvoir interrompre leur grossesse en toute légalité. Le procès de Bobigny en 1972 marque un tournant. Marie-Claire, une jeune fille victime de viol, est acquittée, soutenue par les mouvements féministes.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
J'ai dit et répété combien la situation de l'avortement dans ce pays devenait intenable. Cette question agitait fort les esprits depuis le rejet par le Parlement, 1 an plus tôt, du texte soumis à ses suffrages par le garde des Sceaux, à l'époque Jean Tétinger. Son projet était pourtant de portée limitée, puisqu'il n'autorisait l'avortement qu'en cas de danger pour la mère, ou si le fœtus lui-même était menacé. Le président Pompidou, qui était hostile, l'avait soutenu du bout des lèvres, et les parlementaires, après le discours pourtant mesuré du garde des Sceaux, avaient voté une motion de renvoi. La commission des affaires culturelles s'est donc retrouvée saisie du problème, mais rien n'avait avancé, à cause du décès brutal de Pompidou et de la campagne électorale. De sorte qu'en 1974, c'était toujours l'antique loi pénale de 1920, très rigoureuse, qui s'appliquait. Dans la plupart des cas, ceux qui pratiquaient l'avortement parvenaient à passer à travers les mailles du filet. Mais la loi restait la loi. Et tout le monde gardait en mémoire l'usage ignoble qu'en avait fait le régime de Vichy en faisant juger, puis exécuter. Pour l'exemple, le 30 juillet 1943, Marie-Louise Giraud, blanchisseuse à Cherbourg. Histoire sinistre, reprise dans un film de Claude Chabrol. Depuis des années, j'étais sensibilisée à ce problème de l'avortement. Pas seulement en tant que femme, mais en tant que magistrat. Comme la plupart de mes collègues, j'étais effarée des drames dont je pouvais avoir connaissance. Et puis, l'attitude particulièrement réactionnaire de certains juges me choquait. Sévissait à l'époque un juge d'instruction, spécialisé dans les affaires médicales, qui s'acharnait à poursuivre les médecins ayant pratiqué des avortements, afin de leur interdire à vie l'exercice de la médecine. Il se comportait comme un fou furieux, mais la loi le lui permettait. Nous étions donc un certain nombre à la chancellerie, qui militions en faveur d'un nouveau texte. Ainsi, à la direction des affaires criminelles, se trouvait un magistrat, Christian Pierre, en charge de ses affaires. À chaque changement de gouvernement, il adressait au nouveau ministre une note visant à la sensibiliser à l'urgence de ce problème. Mais les gardes des Sceaux se succédaient et aucune loi n'apparaissait. C'est alors que Michel Poniatowski a compris que la question devait être tranchée par son ministère, celui de la Santé, et non par celui de la Justice. Un temps, il avait envisagé de me confier la présidence d'une commission sur ces questions, car il savait que je m'y intéressais. Mais avec la mort de Georges Pompidou, les événements s'étaient précipités. Et voilà que je me retrouvais en charge de ce dossier explosif. J'en connaissais l'urgence, mais aussi les écueils. Et je n'avais garde de sous-estimer les oppositions qu'il me faudrait combattre, à la fois dans l'opinion et au Parlement. Giscard n'ayant pas dissous l'Assemblée, je savais que bientôt se dresseraient face à moi ces mêmes députés qui, un an plus tôt, avaient refusé de voter un texte pourtant bien plus timide que celui qui allait leur être soumis. Du moins, pouvais-je compter sur l'appui inconditionnel du président. Son premier ministre, en revanche, se montrait plus réservé. Aux yeux de Jacques Chirac, le pays se trouvait confronté à des problèmes autrement plus urgents que l'IVG. Pourquoi Giscard s'acharnait-il donc à vouloir résoudre celui-là en premier ? Les femmes se sont toujours débrouillées. Elles continueront à se débrouiller, tranchait Chirac avec le solide aplomb qu'on le connaît. Toutefois, la fidélité du personnage est ainsi faite qu'à partir du moment où le président de la République eut réaffirmé avec force qu'il voulait ce texte, Jacques Chirac n'a pas ménagé son soutien à mon égard et tout mis en œuvre pour que la loi soit votée. Dans le camp gouvernemental, tout le monde se préparait donc à la bataille. Le président, le premier ministre, le ministre d'État Michel Poniatowski, moi-même, tout le monde, ou presque. Sans doute incertain quant à l'issue des débats, et lui-même partagé entre ses convictions personnelles et les constats qu'il n'avait pu manquer de faire en tant que garde des Sceaux, Jean Le Canuet s'en tenait à une prudente réserve. Enfin, pour éviter d'enflammer par des propos extrêmes les intégristes du « droit à la vie », on avait suggéré à François Giroud d'éviter toute surenchère en parlant de l'avortement comme un droit des femmes, car nous savions, les uns et les autres, que l'affaire s'annonçait délicate. Le scénario le plus vraisemblable était qu'après un vote difficile à l'Assemblée, le Sénat, toujours plus conservateur sur les questions de société, rejetterait le texte et qu'il faudrait alors le faire passer en force à l'Assemblée. En fait, Lucien Neuwirth avait, quelques années auparavant, à l'occasion du débat sur la contraception lancé par sa proposition de loi, pris la mesure du bras de fer qui m'attendait. Les réactions à l'Assemblée avaient déjà été très vives. Je me suis du reste demandé à l'époque si les hommes n'étaient pas, en fin de compte, plus hostiles à la contraception qu'à l'avortement. La contraception consacre la liberté des femmes et la maîtrise qu'elles ont de leur corps, dont elles dépossèdent ainsi les hommes. Elle remet donc en cause des mentalités ancestrales. L'avortement, en revanche, ne soustrait pas les femmes à l'autorité des hommes, mais les meurtrit. Plus nous nous rapprochions de l'échéance du débat, et plus les attaques se faisaient virulentes. Plusieurs fois en sortant de chez moi, j'ai vu des croix gammées sur les murs de l'immeuble. À quelques reprises, des personnes m'ont injurié en pleine rue. Devant l'Assemblée nationale, des femmes égrenaient leur chapelet. Ma crainte était que toutes ces manifestations finissent par déborder. À la même époque, aux États-Unis, des médecins se faisaient assassiner pour avoir procédé à des avortements. La situation en France était tout de même moins explosive. Et puis, si aucune attaque ne me touchait, c'est parce que, tout bien pesé, je n'avais pas d'état d'âme. Je savais où j'allais. Le fait de ne pas moi-même être croyante m'a-t-il aidée ? Je n'en suis pas convaincue.
C'est un sujet qui devrait être traité par le Parlement lors de sa prochaine session, de façon à être tranché avant la fin de la présente année. Et puisque c'est au Parlement de trancher, il ne m'appartient pas de le faire et de le faire à l'occasion d'une réunion de presse, mais je souhaite qu'il tranche dans un sens qui soit libéral et non répressif. Enfin, j'ajoute que j'ai donné comme instruction au gouvernement de ne plus entreprendre de poursuites dans l'attente du vote du Parlement à l'encontre des femmes qui se verraient appliquer la loi de 1920.
Giscard était de culture et de pratique catholique, et cela ne l'a pas empêché de vouloir cette réforme de toutes ses forces. Quelques jours avant l'ouverture des débats, le Conseil de l'Ordre des médecins, par la voix de son président, le professeur Lorta Jacob, fit encore monter la tension en s'affirmant totalement opposé au projet de loi. C'est au cœur de cette agitation que le 26 novembre 1974, la discussion s'ouvrit à l'Assemblée nationale. Paradoxalement, les formations de la majorité n'avaient pas imposé la discipline de vote, Giscard ayant cependant prié les ministres de faire voter le texte par leurs suppléants. À gauche, la discipline de vote était imposée. Un seul député socialiste avait été autorisé à s'abstenir. À l'époque, la télévision ne retransmettait pas les débats parlementaires. Pour la circonstance, en dépit de la grève qui sévissait ce jour-là à l'ORTF, les grévistes s'installèrent dans les tribunes et diffusèrent le débat en direct. Face à cette même chambre qui avait, par 255 voix, contre 212, renvoyé en commission le projet de Stinger, le climat ne pouvait qu'être tendu de bout en bout durant les 3 jours de discussion. J'avais beau être assuré du soutien de la plupart des médecins de la majorité, dont le docteur Bernard Pons, alors jeune député. Je me sentais d'autant plus seul que beaucoup d'interventions à la tribune tenaient du réquisitoire, parfois de la prise à partie haineuse et diffamatoire. La pire de toutes fut celle de Jean-Marie Daillé, évoquant les fœtus envoyés au four crématoire. Il s'en est du reste excusé.
Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin, c'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. Mais comment y parvenir? Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme.
Finalement, la loi a été votée dans la nuit du 29 novembre par 284 voix contre 189, avec une courte majorité des voix de droite, complétée par la totalité de celles de gauche. La victoire était ainsi plus large que nous ne l'avions imaginée et espérée. L'attitude de certains catholiques avait été à cet égard déterminante. La position d'Eugène Claudius Petit, par exemple, avait été très attendue. Après avoir fait part de ses hésitations face à ce que ce texte représentait pour lui, il tint à dire qu'en son âme et conscience, n'ignorant rien de la situation réelle des femmes en difficulté, entre ses propres convictions et la compassion qu'il ressentait pour elles, il faisait le choix de la compassion. Il vota donc la loi, et je suis convaincue que sa décision fit école, comme un an plus tôt son opposition au projet Tétinger n'avait pu être exempte de conséquences. 15 jours plus tard, le texte fut voté au Sénat, quasiment dans les mêmes termes. Nous nous étions attendus à un bras de fer plus rude. Giscard avait apaisé mes craintes. Compte tenu de ce qu'est le Sénat, généralement plus conservateur, surtout sur ces questions, la loi ne passera pas. Mais ça n'a pas d'importance. Nous la ferons revenir en seconde lecture à l'Assemblée nationale pour adoption définitive. À notre vive surprise, le texte passa plus facilement au Sénat, peut-être sous la pression de l'opinion désormais acquise à la réforme. Les outrances des « laissez-les vivre », comme l'effervescence de l'extrême droite et l'intégrisme des proches de Mgr Lefebvre, ne parvinrent pas, bien au contraire, à convaincre les sénateurs, toujours hostiles aux excès, de faire obstacle au projet. Après l'adoption du texte, nous avons eu la satisfaction de voir que la presse lui était presque unanimement favorable.
Je dirais d'ailleurs que là-dessus, sur la question de l'avortement, c'est une chose dont nous, les féministes, nous pouvons être assez fiers, parce que finalement, je me demande si cette loi aurait eu lieu, si elle n'avait pas commencé par signer le manifeste des 343, on les a appelés quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter. Des femmes connues, des femmes moins connues. Après ça, il y a eu le procès de Bobigny, qui était également une grande mobilisation de l'opinion. Il y a eu des quantités de manifestations dans les rues, sur les boulevards, etc., pour réclamer la liberté de l'avortement. Et je pense que comme c'est un point sur lequel justement les barrières de classe ont pu être franchies, parce que ça intéresse aussi bien l'ouvrière que la bourgeoise, ce problème-là, eh bien, je pense que là-dessus, on a pu justement arriver à faire une pression considérable sur un gouvernement, même aussi disons, classique et pour l'ordre et conservateur que celui-ci.
Je ne parle ni du Nouvel Observateur, qui avait pris parti dès 1971 en publiant le fameux manifeste des 343, ni de l'Express, mais le Figaro lui-même se fit une raison. Dans les mois et les années qui suivirent, je m'accoutumais à entendre les hommes croisés, ici ou là, me dire « Ma femme a tellement d'admiration pour vous. Le sens du propos ne m'échappait pas. Ma femme vous admire, mais pas moi. » En réalité, les hommes ne se sont jamais intéressés à cette loi. Comme souvent, Jacques Chirac avait parfaitement traduit leur opinion. L'avortement demeurait une affaire de bonne femme. Pour autant, le soutien du Premier ministre dans ce parcours difficile ne m'avait jamais fait défaut. Dans la dernière nuit du débat à l'Assemblée, à 4h du matin, il avait proposé de venir me prêter main forte. Après le vote, il m'envoya un gigantesque bouquet. La page législative tournée, il faudrait encore bien du temps et bien des actions pour que, dans une société pourtant en mouvement, les mentalités elles-mêmes évoluent en profondeur. C'est aujourd'hui chose faite.
Oumaya s'endort sous les monts d'araignées. Oumaya s'endort sous les monts d'araignées. Dans le vent brûlé. Là où poussaient les roses. Là où poussaient les roses. Oumaya se repose. Oumaya s'endort sous le mont d'araignée. Oumaya s'endort sous les monts d'araignées, dans les vents brûlés. Elle seule le sait que bientôt repousseront les roses. Repousseront. Oumaya repose sous le mont d'araignée, sans peur repose. Une tache au cœur comme une tache au cœur comme un bouton de rose. Un bouton de rose.
Troisième partie de notre série consacrée à Simone Veil, fragment d'une vie lue par Sandrine Bonner, puis il y a quelques secondes, la chanson de Babix, Omaya. Troisième volet consacré donc à cette période de la vie qui fut tellement importante pour elle. La loi Veil, la loi qui porte son nom, d'ailleurs ça l'agaçait de temps en temps, Simone, qu'on la réduise à la loi Veil. Et pour nous, pourtant, ça a été très important. Merci à Nico Jean d'avoir accepté de participer à cette série autour de la mémoire de Simone Veil. Vous aviez fait il y a quelques années, ça a été réédité au moment de la panthéonisation de Simone Veil, il y a un peu moins d'un an, vous aviez republié avec une très belle préface le discours qu'avait prononcé donc Simone Veil à l'Assemblée nationale au moment où elle a réussi à faire adopter cette loi. La première question que je vous poserai, c'est qui est Simone Veil pour vous ?
Je parlerai d'abord de son sourire et ses yeux, pas toujours tristes, mais pas joyeux. Je parlerai de son intégrité fondamentale, une honnêteté qui m'impressionnait, une authenticité farouche. Elle n'était pas complaisante en rien. Elle n'était pas non plus dans la séduction du tout, ce mot l'aurait horrifié, je crois. Elle était elle-même, toujours, dans toutes les circonstances. Alors elle se domptait, parce qu'elle pouvait être vite en colère et qu'elle arrivait à camoufler parfois quand même ses colères et à se tenir en public. Mais elle ne lâchait rien, jamais, sur ses convictions, et elle disait toujours ce qu'elle pensait. Et c'est fascinant, parce qu'on est tellement entouré de gens qui sont, un, dans la séduction, deux, dans la communication, trois, dans le compromis et la compromission, que elle, c'était précisément l'inverse, tout le temps. Et c'est ça que j'ai aimé tout de suite chez elle. C'était impressionnant, c'était même intimidant d'être face à ce bloc d'honnêteté avec en plus une bienveillance à l'égard de beaucoup de gens, et c'est vrai notamment des femmes.
Alors nous allons essayer de comprendre quelle était sa personnalité en tant que femme. Vous avez publié à Nico Jean il y a quelques mois un merveilleux livre, Simone et les siens, qui est constitué de photos de famille. On sait bien, quand on relit ce livre Une vie, à quel point la famille a compté pour elle. Ça compte pour tout le monde, mais plus particulièrement, je crois, pour elle depuis l'enfance et à cause de son itinéraire extrêmement douloureux. Je crois que nous pouvons revenir sur le côté mère de famille et grand-mère, mater familias. On peut dire, vous l'avez dit tout de suite, que c'était une femme qui n'avait pas du tout envie de séduire, mais qui pourtant était d'une beauté vraiment exceptionnelle.
Impressionnante.
C'était quelqu'un de très intransigeant. Vous avez entendu un extrait du discours qu'elle a prononcé à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974. Je vous propose d'en écouter une autre partie.
Nous pensons ainsi répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale, a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? Je sais qu'il en existe, et je me garderai de généraliser. Je n'ignore pas l'action de ceux qui, profondément conscients de leurs responsabilités, font tout ce qui est à leur portée pour permettre à ces femmes d'assumer leur maternité. Nous aiderons leur entreprise, nous ferons appel à eux pour nous aider à assurer les consultations sociales prévues par la loi. Mais la sollicitude et l'aide, lorsqu'elles existent, ne suffisent pas toujours à dissuader. Certes, les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes sont parfois moins graves qu'elles ne les perçoivent. Certaines peuvent être dédramatisées et surmontées. Mais d'autres demeurent qui font que certaines femmes se sentent acculées à une situation sans autre issue que le suicide, la ruine de leur équilibre familial ou le malheur de leurs enfants. C'est là, hélas, la plus fréquente des réalités, bien davantage que l'avortement dit de convenance. S'il n'en était pas ainsi, croyez-vous que tous les pays, les uns après les autres, auraient été conduits à réformer leur législation en la matière et à admettre que ce qui était hier sévèrement réprimé soit désormais légal? Ainsi, conscient d'une situation intolérable pour l'État et injuste aux yeux de la plupart, le gouvernement a renoncé à la voie de la facilité, celle qui aurait consisté à ne pas intervenir. C'eût été là le laxisme. Assumant ses responsabilités, il vous soumet un projet de loi propre à apporter à ce problème une solution à la fois réaliste, humaine et juste.
Annick Cogent, vous avez eu l'excellente idée de publier ce discours avec un entretien avec Simone Veil sous le titre « Les hommes aussi s'en souviennent ». Dans cet entretien, vous rappelez que, fait exceptionnel sous la Ve République, lorsque démarre le débat au Parlement, donc ce 26 novembre 1974, nul ne peut prédire l'issue du scrutin.
Ah oui.
C'est donc une Simone Veil qui va débattre et essayer de convaincre des députés qui n'ont reçu aucune discipline de vote.
Non, c'est
C'était très risqué.
C'était très risqué. Elle allait réellement à l'abattoir d'une certaine façon. Enfin, elle était inquiète. Elle était sûre d'être du bon côté. Elle était sûre de mener le bon combat. Réellement, et elle avait tellement travaillé. C'est un discours qui est très très bien conçu, qui est très intelligent. Évidemment, quand on le relit maintenant, on peut trouver qu'il est un peu en deçà du combat, parce qu'elle n'a pas des termes militants, qu'elle ne parle pas du droit des femmes à disposer de leur corps, etc. Autant d'arguments qu'on utilise maintenant dans les différents pays qui sont encore en recul et qui ont encore à se battre pour ce droit. Elle n'utilise pas du tout ces arguments féministes, par exemple. Pas du tout. Elle va en brandissant des faits, en arguant du devoir de responsabilité devant des désordres publics. Et du coup, il appartient à un État de se montrer réaliste face à des choses qui sont absolument inéluctables. Et donc, un par un, elle démonte tous les arguments de l'opposition. Mais non, le problème, c'était que c'était la majorité à ce moment-là. C'était la majorité électorale, c'était la droite dont elle était issue, puisqu'elle appartenait à un gouvernement de droite, le gouvernement de Giscard, enfin, centre-droit. Elle démonte les arguments des gens de droite avec une rigueur, une tactique d'ailleurs, très très bien conçue, de nature à les désorienter. Parce qu'elle va d'un argument à l'autre, elle montre qu'elle a tout pesé, que ce n'est pas au nom de principe qu'elle brandit ce discours, mais qu'au contraire, en ayant pesé sa responsabilité, en ayant examiné les faits, en sachant la douleur que c'est, en sachant le cas de conscience pour la plupart des gens qui sont dans l'hémicycle, etc. Elle peut pas s'empêcher, comme malgré tout, de dire je suis entourée ma majorité d'hommes, et c'est quand même vous ignorez certainement la détresse que ça peut être pour les femmes. Donc, elle se situe tout à fait du côté des femmes. Mais malgré tout, c'est un discours qui est extrêmement bien conçu et très stratège, je dirais.
Alors, elle vous avoue que ce discours, elle l'a préparé en gardant sa petite fille de 18 mois, que d'ailleurs, elle a perdu les premières ébauches de ce discours. Elle vous avoue aussi que cette loi, même si elle la considère comme très importante pour nous, les femmes, que c'est pas la loi la plus importante.
Non.
Elle vous dit, je continue de penser que la loi Neuwirth autorisant la pilule est beaucoup plus importante par sa portée historique et philosophique, même si on ne lui accorde pas le même poids symbolique.
C'est vrai, elle a toujours dit ça. Et d'ailleurs, un tout petit peu avant de défendre la loi sur l'avortement, elle a facilité encore l'application de la loi Neuwirth et l'accès à la contraception gratuite, remboursée en tout cas pour la plupart des femmes. Donc c'était encore un argument supplémentaire d'ailleurs pour contrer ceux qui étaient contre l'avortement. Mais c'est vrai qu'il y avait une grande modestie et peut-être un grand réalisme finalement, parce que c'est vrai que c'était une avancée considérable, cette loi Neuwirth. Elle trouvait d'ailleurs que c'était normal que la loi Neuwirth porte le nom de Monsieur Neuwirth, précisément parce que c'était une proposition de loi. Alors que pour la loi, quand on dit la loi Veil, c'était la loi proposée par un gouvernement. Elle, donc, elle trouvait que c'était presque illégitime qu'on lui donne son nom.
Alors, j'imagine que vous avez vu ce document du Conseil de l'Europe publié l'an dernier, un rapport sur l'accès à la contraception et à l'avortement qui pointe une régression des droits des femmes dans les États membres. Qu'en est-il aujourd'hui de ce droit de l'avortement? On peut constater que dans notre Europe, dont on va beaucoup débattre dans une très très prochaine actualité, ouais, eh bien ce droit, on revient dessus.
Oui. On peut toujours revenir là-dessus. Il faut jamais considérer que la loi est inscrite dans le marbre. Et il y aura toujours des débats là-dessus, toujours des débats visant à reprendre des droits sur les femmes. Enfin, nos droits ne sont jamais acquis, ça on doit le savoir. Et la loi de l'avortement, je crois quand même qu'elle est maintenant entrée vraiment dans nos habitudes et dans nos esprits. Mais malgré tout, n'ayons aucune certitude là-dessus. C'est terrible.
Simone Veil était très heureuse d'avoir, tout au long de son itinéraire, et vous le rappelez opportunément, Annie Cogent, défendu les femmes, y compris lors du moment douloureux de la guerre d'Algérie. Elle a tout fait pour essayer d'adoucir le sort des détenus en Algérie.
Très attentive.
Des détenus FLN, etc. Mais elle vous dit quand même que ce qu'elle retient de plus important dans sa carrière ministérielle et de femme d'État, c'est peut-être à ses yeux, à elle, l'adoption. Pourquoi ?
Parce que c'était un sujet sur lequel elle avait beaucoup travaillé, même étant jeune, quand elle était à l'administration civile, et que ça lui tenait à cœur. Je ne sais pas si elle avait eu des exemples autour d'elle qui étaient significatifs, mais en tout cas, pour elle, c'était quelque chose d'important. Et d'ailleurs, elle évoque aussi ce travail sur l'adoption dans le débat sur l'avortement, puisqu'elle dit que l'avortement est un pis-aller, et que elle rassure les hommes de l'hémicycle en disant c'est pas une attaque contre la famille. D'ailleurs, j'ai tout fait pour maintenir la famille, pour faciliter l'accès notamment à l'adoption précisément. Donc ça lui, la politique familiale lui tenait à cœur effectivement, et ce en quoi au fond elle s'inscrivait bien dans ce gouvernement de centre droit finalement. Je sais pas si elle pouvait dire quand même que c'était son plus grand travail, parce que elle avait beaucoup de choses finalement à énumérer, et elle était d'une modestie incroyable. Mais je pense qu'effectivement, l'adoption, elle avait l'impression, elle avait parlé à de très nombreux parents, etc., qui étaient venus la voir après, et elle en avait les effets très concrets.
Féministe ?
Oui, alors elle le disait vraiment toutes ces dernières années avec en souriant et en étant très heureuse de prononcer ce joli mot, sans doute sensible peut-être à ce que disait Benoît Gros, c'est un des rares mots en isme qui a pas fait de mort, et que c'est un très bel hommage aux femmes. Je pense qu'elle l'aurait peut-être pas dit les premières années, parce qu'elle était assez bourgeoise et que elle aurait peut-être pas osé prononcer ce mot, y compris devant son mari. Mais que petit à petit, frayant avec les femmes, travaillant avec elles, voyant leurs engagements et voyant au fil de ses voyages, au fil de son travail, l'étendue des inégalités, des injustices auxquelles elle était sensible, certainement depuis le début, il y a eu un jour où elle a fait le pas et s'est déclarée très fortement et très fermement féministe, oui.
Je vous propose d'écouter la voix de Simone Veil à propos du fait d'être femme et ministre. Et c'est une archive INA du 6 mai 1975. C'était au micro de Jacques Chancel.
Ça n'est pas plus difficile d'être femme dans la vie courante. Je crois qu'une fois pour toutes, dans la vie, on a une personnalité qu'on ne perd pas parce qu'on change de fonction, parce qu'on change d'état. Alors je me suis toujours sentie très, très femme, et je me sens de la même façon très féminine. Je crois qu'à ce niveau de responsabilité, tous les gens sont un peu emprisonnés par leur personnage. quel qu'il soit. D'abord parce qu'il y a un manque de liberté que tout d'un coup je me rends compte qui était une chose que je n'avais pas du tout imaginée et qui est très, très astreignante. Mais ça, c'est aussi bien si on est un homme qu'une femme. À partir du moment, sans doute à cause de la télévision, où on devient quelqu'un de connu, on n'a plus la même liberté. Certains, simplement pour aller prendre un café au Zinc, pour entrer dans une boutique, acheter une paire de bas, très souvent les gens vous reconnaissent. Et comme j'aimais particulièrement l'anonymat, ça m'est désagréable. Mais ce serait exactement la même chose si j'étais un homme, c'est pas le fait de la femme. Mais là où les responsabilités, les fonctions, évidemment, changent ma vie, c'est sur le plan de la mère de famille, sur le plan de la disponibilité. L'épouse moins, parce que mon mari est de toute façon très très pris. Alors je crois que nous nous voyons guère moins qu'autrefois. Et puis l'amitié, qui a toujours tenu une grande place dans ma vie. Mes amis me trouvent moins disponible, et ça, moi aussi, je les vois moins, j'en souffre. Mais ça n'est pas, au sens propre, parce que je suis femme, que je ne me sens pas moins femme.
Simone Veil a-t-elle fait progresser la représentativité et la responsabilité des femmes à l'intérieur du monde politique, selon vous, Annick Cogent ?
Ah, je pense que oui, elle a été un exemple et une inspiration réellement pour beaucoup de femmes. D'ailleurs, c'est très frappant quand on interroge des très jeunes femmes politiques actuellement, venant de tous les horizons, que ce soit de la gauche-gauche, à la droite, à chaque fois il y a ce respect et toujours il y a cette mention de Simone Veil qui fait l'unanimité. C'est fascinant, je ne vois pas d'exemple équivalent. Et donc je pense qu'elle a montré que c'était possible, elle a montré que la femmes aussi, Dieu sait si les femmes politiques sont critiquées, beaucoup plus attaquées que les hommes, c'est incontestable. Contrairement à ce que dit Simone là un peu, elle disait c'est aussi difficile sans doute pour les hommes. Non, bien sûr, et elle-même le savait d'ailleurs parce qu'elle formait un petit groupe d'amitié avec d'autres femmes politiques, elles avaient l'habitude de se réunir pour parler en toute liberté et elles toutes se racontaient les sarcasmes et les moqueries dont elles étaient l'objet de la part de leurs confrères masculins. Mais malgré tout, pour beaucoup de femmes qui voulaient se lancer en politique, oui, Simone Veil était l'exemple de la dignité, de la hauteur de vue, d'une certaine liberté. Et cela, malgré son allure, c'est vrai, assez un peu rigide, un peu pas toujours très moderne, un peu conformiste, enfin d'allure en tout cas. Mais je pense qu'elle a donné des tas de coups de pouce et de stimuli, je dirais, à beaucoup de femmes pour entrer en politique, certainement.
Nous allons l'entendre, elle va évoquer l'attitude des femmes vis-à-vis du pouvoir. C'est une archive INA du 21 juin 2006.
C'est vraiment une des choses que je regrette beaucoup, c'est de voir si peu de femmes dans la vie politique en France, mais pas seulement dans la vie politique, aussi dans les responsabilités dans l'entreprise. Je disais que dans la magistrature maintenant, il y avait beaucoup de femmes, je m'en réjouis, mais là, c'est parce que la magistrature est en difficulté. Donc elle va vers les femmes pour pouvoir recruter. Mais que pour le reste, il n'y a pas assez de femmes, qu'elles sont d'ailleurs encore brimées, les directives européennes sont très peu respectées. Récemment, il y a eu pour introduire la parité. Moi, j'ai fait partie du groupe sur la parité. On a eu beaucoup de difficultés, mais il fallait une réforme constitutionnelle. Elle a été faite, mais elle a été faite de telle façon que la parité, légalement, ne peut intervenir que pour les institutions politiques. C'est-à-dire uniquement lorsqu'il s'agit du Sénat, de l'Assemblée. Quand on a voulu essayer d'utiliser le texte sur la parité, par exemple pour le Conseil des prud'hommes, eh bien, le Conseil constitutionnel où je siégeais d'ailleurs à l'époque a été obligé de dire que le Conseil des prud'hommes n'était pas une entité politique, donc que ça ne pouvait pas s'appliquer. Donc il faut de nouveau réformer la Constitution pour pouvoir les faire progresser. Mais surtout, c'est que chaque fois les femmes n'ont pas leurs droits ne sont pas respectés comme ceux des hommes. Il y a 1000 prétextes pour trouver, pour payer moins les femmes. Mmh. Elles n'ont pas la qualification exacte qui est demandée, soi-disant, ou bien elles sont trop souvent absentes, dit-on. Et donc je crois qu'il y a un énorme effort à faire, et particulier. Je dis ça parce que c'est particulier en France. Je dirais même que je trouve que dans le gouvernement actuel, on ne les voit pas tellement, en dépit de leur forte personnalité certaine.
Combattante, pas forcément militante, mais combattante des droits des femmes,
oui.
De tous les droits des femmes.
Oui, c'est un joli mot, et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'elle s'est battue pour la parité, avec très choquée notamment l'épisode des jupettes, par exemple. Et elle avait ce qui est intéressant dans ce que dit Simone Veil aussi, c'est que elle se battait donc certes pour la parité, mais disait-elle, c'est pas seulement au nom du principe de l'égalité, un homme égal une femme, c'est pas ça. Elle avait l'impression qu'on était vraiment complémentaires, et que précisément les femmes, elles avaient quelque chose d'autre à apporter à la politique. Voilà, c'était pas l'équivalent des hommes, c'était autre chose, c'était un autre univers, c'était d'autres préoccupations, c'était d'autres subtilités, c'était d'autres sujets qu'elles apportaient à la table des discussions et à la table des négociations, par exemple, parce que les femmes, disait-elle, sont de bonnes faiseuses de paix, par exemple. Et donc, c'était au nom de ça, au nom du fait qu'elles font de la politique autrement. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée-là, d'ailleurs. Mais elle avait l'impression vraiment que, oui, elles apportent d'autres choses dans l'univers public et l'univers politique que les hommes. Et c'est au nom de cela. Il y avait bien sûr le principe d'égalité, mais au-delà de cela, elles enrichissent terriblement le débat et la conception même de la politique et du pouvoir.
Ben merci beaucoup, Annie Cogent. Merci pour vos deux livres, Simone et les siens, c'est aux éditions Grasset. Et merci aussi pour ce livre qui est publié en livre de poche, qui s'intitule « Les hommes aussi s'en souviennent, une loi pour l'histoire ». C'est avec Clara Luciani, nue, que nous nous quittons ce soir, en espérant vous retrouver demain pour cette série d'émissions consacrées à Simone Veil. Merci à la famille Veil, merci à Sandrine Bonner pour sa lecture des extraits de ce texte de Simone intitulé « Une vie », édité d'abord par Stock en 2007, puis aujourd'hui, depuis 2009, disponible en livre de poche. Vous pouvez retrouver aussi sur le site de l'Heure Bleue, sur franceinter.fr, deux témoignages inédits autour de l'héritage de Simone Veil, de David Teboul et Samia et Saba. Merci à Jean-Baptiste Audibert, merci à Anne-Sophie Dazard et Elodie Royer, et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission et toutes les autres.